Nouvelle avarie technique sur un avion d'Air Canin hier soir. Les passagers qui devaient embarquer pour Bangkok ont dû revenir sur Nouméa. Les acteurs du maritime et du numérique réunis pendant deux jours à l'UNC pour l'Ocean Digital. Il s'agit de voir comment ces deux secteurs peuvent s'articuler autour de l'avenir du maritime. La présentation de deux spectacles dans ce journal, celui de l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie, ce sera samedi soir, et le nouveau spectacle de danse de Stan Cabarlouette début octobre. Le chorégraphe sera notre invité dans un instant. En métropole, François Bayrou tente d'amadouer le RN. Emmanuel Macron lance un appel du pied au Parti Socialiste. L'exécutif cherche à éviter la chute du gouvernement. À Marseille, un homme blesse 5 personnes à l'arme blanche. Il a été tué par la police. Et puis dans la page sport, nous verrons que l'équipe de France de basket enchaîne une nouvelle victoire à l'Euro 2025. Et en cyclisme, que Jonas Vingegaard a pris le pouvoir sur le Tour d'Espagne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Une nouvelle avarie a donc contraint Air Calédonie International à suspendre sa rotation Nouméa Paris et Paris Nouméa via Bangkok pour aujourd'hui. L'avion qui devait décoller cette nuit a subi une panne. Il est resté cloué au sol, nous a expliqué Arnaud Gervais, le directeur marketing et commercialisation d'Air Calédonie International.
Lors des procédures de contrôle, avant le départ de l'appareil, il a été constaté une panne technique au niveau du module du démarrage moteur. Donc pas le moteur lui-même, mais le module de démarrage. C'est une panne qui est connue au niveau mondial, qui est répertoriée chez les motoristes comme étant assez récurrente. On en a eu plusieurs déjà cette année. Et la réparation est compliquée par la tension mondiale sur la disponibilité des pièces, puisque le motoriste ne les délivre qu'en cas de panne, et ce qui empêche tout stockage préventif chez Air Calin à Nouméa. Donc on a un plan de fiabilisation de ces composants essentiels avec le fournisseur afin de répondre à ces contraintes et de régler ce problème qui est malheureusement connu chez beaucoup de compagnies aériennes.
Pour le moment, la pièce défectueuse a été identifiée, mais le délai d'acheminement de la pièce de rechange n'est pas connu. Pour l'heure, seule cette rotation des vols SB500 et SB500 est annulée. La compagnie tient à présenter ses excuses aux passagers impactés. On retrouve Arnaud Gervais.
Nos procédures, dans ces cas-là, elles sont claires. On prend en charge l'intégralité des passagers pour les ramener en centre-ville à Nouméa, sur plusieurs points de dépose. Et puis pour les non-résidents, on organise leur hébergement et ainsi que la prise en charge de leur repas jusqu'à leur nouveau départ. Alors j'ai appris ce matin que certains de nos passagers se sont plaints d'avoir manqué d'informations sur ce vol qui opère de nuit. Donc l'attente pour faire venir les navettes depuis Nouméa, semble-t-il, était un peu longue, même si elles sont arrivées en une heure et quart. Je peux comprendre que dans ces cas-là, l'attente des passagers soit longue et pénible. Et donc on s'excuse comme tous nos passagers qui ont été affectés par cette panne et on est mobilisés pour leur trouver des solutions rapides de réacheminement.
La compagnie indique que le travail de reprogrammation du vol est en cours et que les horaires seront communiqués dès que possible. Toujours au chapitre aérien, notez que l'avion d'Aircal, cette fois-ci, qui était loué à Air Tahiti, est revenu sur le territoire. Il a décollé hier de Polynésie française et s'est posé à Tontuta après une escale aux Samoa. Le retour de cet ATR va permettre à la compagnie de vendre l'un de ses avions afin de renflouer sa trésorerie. On notera toutefois qu'un autre avion doit partir pour une longue révision de maintenance des 8 ans en Serbie dans les prochains jours. Florence Bonafou est la présidente de PASAI. La présidente de la Chambre territoriale des comptes était notre invitée ce matin à 7h30, Nicolas Legrand, et elle est notamment revenue sur cette nomination la semaine dernière.
Oui, elle prend la tête de l'Association des institutions supérieures de contrôle du Pacifique. Elle a donc été nommée après la réunion du congrès PASAI à Nouméa. Et durant son mandat d'un an, Florence Bonafou souhaite poursuivre le travail avec ses homologues de la région.
Ce que je souhaite, c'est développer la coopération encore plus avant entre ces institutions supérieures de contrôle. L'année dernière, nous avons réalisé un audit coopératif sur l'adaptation au changement climatique que nous avons réalisé, bien entendu, en Nouvelle-Calédonie, mais en partenariat avec d'autres institutions supérieures de contrôle du Pacifique. D'ailleurs, le rapport global régional sera publié mi-septembre. C'est un modèle de coopération par la pratique sur le terrain qui est très productif, qui permet aux équipes de vraiment s'intégrer et en plus de répondre à une problématique concrète pour leur territoire ou leur pays. Donc je souhaite développer ce type d'audit coopératif au plus possible. En plus, je souhaite développer le parangonnage, c'est-à-dire qu'on puisse s'échanger des informations sur les bonnes pratiques qui ont lieu dans les États voisins ou les organismes publics voisins, et pouvoir les mettre en avant dans nos audits à titre d'exemple de bonnes pratiques.
Et durant cette interview à 7h30 ce matin sur Radio Rythme Bleu, on a aussi évoqué l'actualité de la Chambre territoriale des comptes qui relance sa plateforme citoyenne pour la troisième année consécutive. Toute personne peut déposer une proposition de contrôle à la CTC pour 2026. La première année, je rappelle que le thème retenu avait été les frais de déplacement des élus, dont le rapport d'observation a été publié dernièrement.
C'est une ouverture récente de nos travaux aux citoyens. Je pense que ça répond à une attente. D'ailleurs, on le voit aussi dans d'autres institutions supérieures de contrôle du Pacifique. Donc, c'est un mouvement un peu général. Ça fait partie de l'aération de notre programme de travail et qui nous permet de soulever des points auxquels on n'aurait pas pensé. Ça peut être d'un point de vue d'un usager, comment améliorer un service public, d'un point de vue d'un citoyen, ben, où vont mes impôts. J'ai fait un appel vraiment à tous et à toutes pour que vous puissiez déposer dans le mois qui vient vos idées sur cette plateforme afin qu'on puisse avoir un panel parmi lesquels choisir celle qui nous paraîtra la plus nouvelle, la plus originale par rapport à notre programme traditionnel de travail qui a tendance à se focaliser sur les volumes financiers les plus importants. Mais il peut y avoir d'autres thèmes qui sont tout à fait intéressants. Il faut simplement qu'on vérifie qu'on soit compétent, on n'est pas compétent sur tous les champs, et qu'on ait les moyens matériels et humains de le traiter.
Florence Bonafou qui a également évoqué un arrêt de la Chambre du contentieux de la Cour des comptes. Elle a condamné cette nuit le maire de Poindimier, Paul Néaoutine, à une amende de 4 000 €, soit près de 480 000 francs. Il lui est reproché en fait d'avoir mandaté dans un délai trop long le paiement d'une amende, mais aussi de l'indemnisation pour la victime d'un accident de chantier survenu sur la commune en 2018. Il aura mandaté le versement des sommes dues 35 à 40 mois après la décision de justice, alors que le délai légal était de 2 mois.
Une décision de la Chambre du contentieux de la Cour des comptes condamnant le maire de Poindimier à une amende pour non-exécution d'une décision de justice. La décision de justice concernait des frais d'indemnisation à une personne qui avait subi un accident de chantier du fait de la commune. Ce paiement, ce mandatement n'avait pas été mis en œuvre dans les délais réglementaires. Et donc là, effectivement, il y a eu une condamnation du maire dans le cadre de ce nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics qui a été mise en place en 2023 et qui permet donc de poursuivre ce type d'infraction. Ça montre aussi l'importance d'exécuter les décisions de justice. Lorsqu'elles sont émises, il faut qu'elles soient exécutées, y compris par les collectivités publiques. La Chambre du contentieux a pris en compte différents arguments, notamment par exemple le manque de trésorerie de la commune, etc. Mais sur la durée, le maire devait quand même prendre des actes pour exécuter cette décision de justice.
Et l'arrêt disponible sur le site de la Cour des comptes précise qu'en 2021, Paul Néaoutine avait déjà fait l'objet d'une procédure pour des faits identiques devant la Cour de discipline budgétaire et financière concernant là son mandat de président de la province Nord.
La CCI réunira une assemblée générale extraordinaire le 10 septembre prochain, c'est dans une semaine. Son président David Guyenne a été entendu dans le cadre d'une procédure judiciaire concernant son activité professionnelle. Mais la liste battue lors des dernières élections consulaires a demandé à faire le point sur le fonctionnement de la Chambre et a réclamé pour cela une assemblée générale extraordinaire. Elle a donc été programmée au 10 septembre prochain.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est lors de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à la question d'hier. 62% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS trouvent que la CAFAT a raison de lancer une campagne de lutte contre le travail dissimulé. Ils sont 38% à penser qu'elle a tort de lancer cette campagne. Et puis voici notre question du jour. Les téléphones portables sont interdits dans tous les collèges de France à partir de cette rentrée de septembre 2025. Faut-il, selon vous, étendre au lycée cette interdiction des téléphones portables? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Les acteurs des secteurs maritimes et numériques en Nouvelle-Calédonie sont réunis pendant 2 jours à l'UNC. Ils participent, Léo Fichou, à l'événement Ocean Digital.
Un événement innovant qui a pour vocation de présenter les métiers et les formations de ces secteurs, des secteurs pourvoyeurs d'emplois, leviers de croissance pour le territoire. Sensibiliser, former, inspirer, c'est l'objectif d'Océan Digital. Guillaume Terrien, fondateur de Néotech et Néocéan, il est l'organisateur de l'événement.
Le plus important, je pense, c'est le côté humain dans cet événement. Les publics scolaires, scientifiques, étudiants et professionnels vont se rencontrer. L'objectif étant de créer des synergies entre tous ces publics pour finalement parler ensemble de l'avenir de l'océan, du maritime et de l'avenir du numérique. Le maritime, comme tous les autres secteurs, est un secteur qui est impacté par le numérique, forcément. On sait notamment que dans les recherches, tout ça, les scientifiques se basent énormément maintenant sur la donnée qui est issue de technologies numériques, et que c'est comme ça qu'ils arrivent à tirer finalement des enseignements et à accompagner nos politiques dans leur prise de décision qu'on pourrait dire éclairée.
Au programme de ces 2 journées, des tables rondes, des conférences, des témoignages autour de l'avenir du maritime et du numérique, on retrouve Guillaume Terrien.
On va avoir des tables rondes avec 4-5 experts sur des thématiques précises. On va avoir également des séquences de pitch où des entrepreneurs vont pouvoir venir présenter leur entreprise. On va avoir des témoignages de scientifiques notamment sur leurs travaux, notamment dans le milieu maritime, et des conférences finalement thématiques. Je pense aux jumeaux numériques, je pense à la data au service de l'océan. Voilà, tout un tas de, finalement, un faisceau de thématiques comme ça qui seront abordées par une soixantaine d'intervenants experts dans leur domaine.
La première journée d'Océan Digital continue jusqu'à 19h à l'UNC avec notamment la projection du film documentaire des étoiles sous la mer dès 17h. Demain, les portes de l'amphithéâtre s'ouvriront à 8h, se refermeront à 18h. L'entrée est gratuite. Toutes les informations sont à retrouver sur le site neocean.nc.
Au chapitre des faits divers, un obus découvert ce matin à Nouméa, à Caméré. Ce sont des policiers municipaux qui ont découvert l'engin vers 6h15 dans le secteur du débarcadère. Les forces de l'ordre ont immédiatement mis en place un périmètre de sécurité en attendant l'intervention du NEDEX. Les militaires de ce service spécialisé dans la neutralisation d'explosifs ont récupéré l'engin sans incident. La police nationale rappelle à la population qu'en cas de découverte d'un obus, dans la plupart du temps des explosifs entreposés sur le territoire pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut surtout veiller à ne pas toucher ni manipuler l'engin et qu'il faut contacter le 17 dans les plus brefs délais. L'actualité dans la région avec une nouvelle grosse saisie de drogue en Australie. Plus de 500 kilos de cocaïne ont été découverts dans le port de Sydney. 3 personnes ont été interpellées. Le récit de Jean-Pierre Zajac.
La police fédérale et celle du New South Wales sont à l'origine de cette saisie de 506 kilos de cocaïne d'une valeur à la revente estimée à plus de 10 milliards de nos francs. La drogue était dissimulée dans la double cloison d'un conteneur en stationnement dans une aire de stockage du port de Sydney. Conteneur dont la cargaison légale avait été déchargée quelques jours plus tôt. 3 individus, disposant apparemment d'une carte d'accès aux installations portuaires, ont été surpris alors qu'ils tentaient, à la faveur de la nuit, d'ouvrir le cloisonnage du conteneur à l'aide d'un pied de biche et d'une meuleuse d'angle. Les policiers qui les surveillaient y ont alors découvert les 506 kilos de cocaïne. Arrêtés en flagrant délit, les 3 individus ont été inculpés pour trafic de stupéfiants et risquent la prison à perpétuité. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h43. Dans un instant, on va se retrouver pour parler de 2 spectacles. Le spectacle de Miss Nouvelle-Calédonie, ce sera samedi soir à Nouméa. Et aussi le prochain spectacle de danse de Stan Kabarlouet qui sera notre invité dans un instant.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone, Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Pour poursuivre ce journal, nous allons parler de 2 spectacles. D'abord, le retour des Miss. Le concours Miss Nouvelle-Calédonie 2025 est prévu en effet samedi prochain. C'est un événement très attendu, Michael Juneski, alors que l'édition 2024 avait dû être annulée en raison de la crise insurrectionnelle.
Oui, le concours de beauté qui revient et qui espère proposer un beau spectacle aux Calédoniens. Après des années compliquées, le couac de l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2023, puis l'annulation de l'événement, tout simplement en 2024 pour les raisons qu'on connaît. L'ambition est de renouer avec les plus belles heures de ce rendez-vous affectionné par une large partie de la population. 8 candidates seront sur la scène du Méridien samedi soir pour tenter de décrocher le diadème tant convoité et succéder à Emma Grousset qui est restée notre ambassadrice de beauté durant 2 ans. Écoutez, Stéphanie Lemaître est la vice-présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie.
Un grand retour pour cette année puisque nous espérions pouvoir organiser cette élection. Déjà pour le comité Miss Nouvelle-Calédonie, la société Miss France aussi qui nous attend très impatiemment. Et bien évidemment pour tous les Calédoniens et un message d'espoir et de leur redonner le sourire par l'élection d'une belle ambassadrice. On n'a pas eu donc de représentante l'année dernière, donc c'est vrai que c'était très difficile de regarder l'élection de Miss France en direct sans avoir la présence d'une Miss Nouvelle-Calédonie. Donc cette année, on a mis les bouchées doubles effectivement. On a eu la chance d'avoir des partenaires qui ont cru en nous et qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance. Et donc de pouvoir réaliser ce grand événement, bien sûr, avec toutes les personnes présentes aux alentours, les bénévoles, les partenaires, les institutions. C'est un projet qui renaît, on va dire.
Et cette année, le concours se déroulera avec une invitée de prestige, Miss France 2023, ancienne Miss Guadeloupe, Indira Ampio. Par ailleurs, la soirée affichant déjà complet pour samedi, le comité Miss Nouvelle-Calédonie a décidé d'ouvrir au grand public les portes de sa répétition générale dès demain soir. On retrouve Stéphanie Lemaître.
Nous avons la chance d'avoir Indira Ampio, voilà, qui a été Miss Guadeloupe et Miss France 2023, qui nous fait l'honneur de sa présence et c'est elle qui ouvrira donc l'élection Miss Nouvelle-Calédonie. Le résultat en est que nous avons vendu toutes les places pour l'élection du samedi. Nous avons ouvert une billetterie pour pouvoir permettre aux Calédoniens qui n'ont pu prendre de place d'assister à la répétition générale. Donc je les invite à se rendre sur le site pour pouvoir acheter des places si besoin. Il n'y aura pas le couronnement, il est vrai, mais de pouvoir assister à la répétition générale qui aura lieu donc jeudi et de quand même pouvoir assister et de découvrir le spectacle par rapport au thème donc qui a été choisi. Naturel.
Les réservations pour assister à la répétition générale sont possibles sur le site etiquette.nc. Le comité Miss Nouvelle-Calédonie rappelle également le numéro pour voter pour la candidate de son choix, le 4008. Je rappelle que Miss Nouvelle-Calédonie partira représenter le territoire lors du concours Miss France au mois de décembre.
Et nous reparlerons de cette soirée demain matin avec Karine Richer-Aguin, la directrice artistique de cette soirée. Elle sera notre invitée à 7h30. Et on va parler danse maintenant avec le chorégraphe et danseur Stan Cabarlouette. Bonjour.
Bonjour Jean-François.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez dans nos studios il y a un peu plus d'un mois pour nous parler des Nuits de l'avant-scène. On se souvient que vous aviez monté ce spectacle dans des conditions particulières. Je vais presque dire que c'était une résurrection. Et puis voilà que vous annoncez déjà un deuxième spectacle au mois d'octobre. Vous l'aviez quand même déjà un petit peu en tête.
Oui, il était déjà programmé et on le travaillait déjà en parallèle à ce moment-là. Donc on a organisé en fait le travail des classes pour pouvoir présenter effectivement deux productions en 2025, et là, normalement, enfin, c'est pas normalement, c'est on va sur une production internationale d'ici 5 semaines.
Alors, donc, on va en parler, ce sera le 3, 4 et 5 octobre au Centre culturel du Mont-d'Or. Avant cela, revenons quand même sur les Nuits de l'avant-scène, parce qu'il y avait une attente du public, ça s'est senti, ça a reboosté un petit peu les danseurs de votre école, vous avez senti que ça a dégagé une énergie positive?
Oui, absolument, c'était important, parce qu'effectivement, suite à tout ce qu'on a traversé à l'actualité, les gens avaient besoin de se changer les idées, les élèves aussi, ça leur a donné un objectif de travail, à nous aussi, à toute l'équipe, et puis aussi on avait envie de faire plaisir au public. Donc oui, ça
qui a répondu présent. Hein.
Qui a répondu présent avec un beau programme, du succès. Donc on est content d'avoir joué et que c'est plu quoi.
Alors le 3, 4 et 5 octobre, ce sera Paquita, c'est le nom de votre nouveau spectacle en 3 parties distinctes. Là, oui. C'est une grosse soirée. Hein.
C'est une très grosse soirée. En fait, c'est le grand spectacle de l'école de danse. On fait un hommage au 150e anniversaire de l'Opéra Garnier. Donc c'est son anniversaire cette année, et donc un spectacle en 3 parties symboliques qui retrace un peu son histoire, avec une première partie donc de danse moderne, exclusivement danse moderne avec les classes de l'école de danse. Une seconde partie où on représente la création que j'ai présentée au mois de juillet, qui s'appelle Le Cri des Fleurs, qui a beaucoup plu. Et à partir de là, on s'est dit, on va la représenter au mois d'octobre. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier l'équipe RRB de m'avoir invité pour pouvoir en parler en mois de juillet, parce que des personnes d'Australie ont entendu l'interview, sont venues voir le spectacle. Et du coup, on a peut-être la possibilité d'aller danser en Australie avec cette création en 2026. Donc voilà.
On va s'arrêter un instant avant de parler de la troisième partie, parce que c'est aussi intéressant. On verra, il y a des danseurs étoiles qui viennent du théâtre de Naples. Ce Cri des Fleurs, là, cette création que vous avez proposée, elle a vraiment conquis le public. Il y a quelque chose qui s'est passé pour les gens qui étaient, ils l'ont senti. Il y a vraiment une osmose entre le public et cette création.
Oui. Alors, je vais être honnête, j'ai monté cette création. À chaque fois que j'arrivais en répétition, j'étais dans un état d'esprit différent, toujours en gardant la ligne conductrice. Le thème, c'est un hommage aux gens qui fuient la guerre à travers le monde. Et à chaque fois que je suis arrivé en répétition, j'essaie de retranscrire ce que je sentais à l'instant T par rapport à mes élèves aussi, parce que je fais aussi les créations par rapport à ce que les élèves m'apportent et ce qu'elles m'inspirent. Donc, comme disait Béjart, c'est vraiment la chorégraphie se fait à deux, c'est comme l'amour.
Béjart qui a été votre mentor, on
l'appelle. Oui, tout à fait. Et en fait, j'ai monté la création comme ça, de bout à bout, sans me dire à la fin, ça va représenter cette pièce-là, cette création-là. Et en fait, quand je l'ai regardée dans la salle, les dernières répétitions avant qu'elle soit présentée, mon regard changé et je me suis dit mais c'est top et c'est très rare que je sois satisfait de mon travail mais là je me suis dit franchement c'est bien et puis les filles dansent vraiment très très bien et en fait la magie a pris et c'est vrai que le public tout le monde était il y a eu des gens ont pleuré de joie de bonheur c'était un beau message
d'émotion
absolument Jean-François c'était beaucoup d'émotions.
On va souhaiter longue vie à ce cri des fleurs, on espère qu'il sera effectivement produit et représenté sur d'autres scènes y compris en Australie, on espère que évidemment le projet se concrétisera. Et puis il y aura donc cette troisième partie lors de ce spectacle des 3, 4 et 5 octobre. Paquita, et alors là c'est de la danse classique et vous avez fait appel à deux stars, on peut le dire, des danseurs étoiles de l'Opéra de Naples.
C'est ça. Oui, alors en fait, l'histoire de Paquita, ça se passe en Espagne. C'est durant l'occupation de l'armée napoléonienne. Une gitane sauve un officier français par un particulier médaillon. Elle découvre qu'en fait, elle est d'origine bourgeoise et donc elle peut se marier avec son officier. Donc voilà, l'histoire.
Le pitch.
Donc voilà l'histoire. Mais en fait, il y a un gros travail d'adaptation chorégraphique avec les élèves de l'école de danse où on a suivi une scénographie très 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 précise et donc on a invité deux danseurs donc étoiles de l'opéra de Naples qui suivent la même scénographie et donc on aura à peu près deux répétitions donc c'est très 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 court pour mettre tout le monde ensemble et présenter le ballet à la première le 3 octobre.
Alors vous les connaissez pas ces deux danseurs mais vu leur niveau on imagine évidemment qu'ils s'intégreront très très vite. C'est assez rigolo la manière dont leur venue se fait en Nouvelle-Calédonie parce que c'est une histoire de réseau, en fait, dans le petit monde de la danse. On peut résumer ça comme ça?
Oui, absolument. En fait, la directrice du théâtre San Carlo est la maman d'un des danseurs de l'Opéra de Paris qu'on a invité en 2018. Donc, en fait, quand on lui a proposé l'invitation, elle a dit oui tout de suite. Et donc, elle va elle-même les faire travailler personnellement pour qu'ils soient au top pour ici. Quoi.
Après un an et demi très, très difficile, Stan Cabarlouette, deux spectacles en deux mois et demi, trois mois. Vous ressentez qu'une énergie est en train de se dégager à nouveau pour votre activité? Vous sentez un besoin et du public et des danseurs?
Oui, besoin du public, ça c'est clair parce que les gens, là j'ai des gens déjà qui m'appellent pour me demander où on réserve les places que je ne connais pas et qui me disent c'est tellement beau, on va pas louper ça et ça va nous faire du bien et c'est aussi notre objectif. Faire des spectacles, bon, on les fait pour nos élèves, pour nous, mais c'est aussi pour amener du bonheur et de la joie aux gens. Donc oui, les gens en ont besoin, on en a besoin, et puis il faut que la vie continue, reparte et continue. Ouais.
Donc Paquita, c'est le 3, 4 et 5 octobre au Centre culturel du Mont d'Or, les réservations sont déjà ouvertes?
Oui, elles sont ouvertes sur etiquet.nc ou au 41 90 90, Centre culturel du Mont d'Or, voilà, comme d'habitude, même endroit.
Eh bien, merci beaucoup, Stan Cabarlouette, d'être passé dans les studios de Radio Rythme Bleu pour nous présenter Paquita, donc, qui aura lieu le 3, 4 et 5 octobre au Centre culturel du Mont d'Or. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve dans un instant pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La ville de Nouméa organise une édition particulière de sa fête du sport ce samedi 6 septembre à la piscine du Wentoro.
Rendez-vous de 8h à 13h pour une matinée 100% sport aquatique.
Venez à la rencontre des associations sportives qui vous ont préparé de nombreuses activités.
Jeux ludiques, tests de niveau et différentes initiations. À l'apnée, au hockey subaquatique ou encore à la natation synchronisée. Une journée placée sous le signe de l'information et pourquoi pas de l'engagement en s'inscrivant auprès d'un club.
Et pour l'occasion, l'entrée sera gratuite toute la journée à la piscine du Wentoro et au centre aquatique de Nouméa situé à Magenta.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Jean-François Baudin.
D'abord l'actualité en métropole et François Bayrou poursuit ses consultations avant d'engager la confiance devant les parlementaires le 8 septembre. Ce choix est un suicide politique, estime Nicolas Sarkozy. Il s'exprime dans les colonnes du Figaro et si le gouvernement chute, l'ancien chef de l'État ne voit qu'une seule façon de sortir de la crise politique. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Pour Nicolas Sarkozy, la dissolution est le seul moyen de sortir du blocage politique actuel. L'ancien président étrille la décision de François Bayrou de demander la confiance à l'Assemblée. À peu près le contraire de ce qu'il fallait faire, dit-il, la certitude d'un échec. Nicolas Sarkozy n'épargne pas non plus Emmanuel Macron, responsable d'avoir provoqué l'instabilité avec la désastreuse dissolution de l'an dernier, qualifiée de bombe à fragmentation. Selon lui, nous vivons les derniers soubresauts de cette funeste décision. Il juge paradoxal d'avoir dissous quand rien ne l'exigeait et de s'y refuser aujourd'hui alors que la décision s'impose. Le chef de l'État tentera sans doute de nommer un nouveau Premier ministre, prédit-il, mais à ses yeux, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Enfin, l'ancien président appelle les Républicains à ne pas voter la confiance. Il réclame une primaire de la droite et du centre avant 2027 et estime que le Rassemblement national appartient bel et bien à l'arc républicain.
En attendant, François Bayrou poursuit ses entretiens avec les différents partis. Il recevait les responsables du Rassemblement national qui n'ont pas l'intention d'accorder leur confiance au gouvernement lundi prochain. Il a toutefois fait une ouverture en se disant prêt à réformer l'aide médicale d'État, qui est l'une des demandes du Rassemblement national. De son côté, le chef de l'État anticipe un départ forcé de François Bayrou de Matignon. Il a réuni les chefs du bloc central qu'il a invités à travailler avec le Parti socialiste et construire un nouveau gouvernement. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, s'est dit à disposition pour discuter de la place de la gauche dans un futur exécutif. En attendant, la situation financière de la France reste très inquiétante. La dette se creuse, les investisseurs sont inquiets car la confiance dans la capacité de la France à rembourser ses emprunts à long terme est au plus bas. Barthélémy Philippe.
La dette française est un actif que les investisseurs jugent de plus en plus risqué. C'est pourquoi ils demandent un rendement plus important. Le taux à 30 ans a franchi la barre des 4,5%, une première depuis la crise financière de 2010 et le symbole d'une situation qui s'aggrave selon l'économiste Sylvain Bersinger.
On est vraiment dans une dynamique là de taux qui augmente régulièrement, ce qui est le reflet de la situation de blocage politique avec un déficit élevé et une incapacité à faire la moindre économie pour réduire ce déficit. On va continuer à être dans cette érosion graduelle des conditions d'emprunt de la France. Il n'est pas exclu que dans quelques semaines, on s'endette plus cher que l'Italie il y a 10 ans, qu'on soit vraiment la lanterne rouge de la zone euro.
Même si les marchés ont sans doute en partie anticipé la censure quasi certaine de François Bayrou, une nouvelle poussée des taux d'intérêt n'est pas à exclure à l'issue du vote de confiance lundi prochain, mais aussi le vendredi 12 septembre. L'agence Fitch doit actualiser la note de la dette souveraine française, note dont la dégradation paraît inévitable.
L'actualité en métropole, c'est aussi cette agression au couteau à Marseille. Un homme a poignardé 5 personnes dans un hôtel près du Vieux-Port. L'une des victimes est dans un état grave. Il est ensuite sorti dans la rue, son poignard à la main. La police lui a demandé de déposer son arme, mais l'agresseur s'est avancé vers eux en criant « Allah Akbar ». Les policiers ont ouvert le feu. L'assaillant a donc été tué. C'est un ressortissant tunisien qui avait été expulsé il y a quelques jours de l'hôtel dans lequel il était hébergé car il ne payait pas sa pension. C'est dans cet hôtel qu'il est revenu commettre son forfait, a expliqué le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessonne.
Il revient aujourd'hui dans cet hôtel. Il monte immédiatement au premier étage de cet hôtel, se rend dans la chambre qu'il occupait avant d'en être expulsé et porter un coup de couteau au flanc d'un colocataire, d'une personne qui occupait cette chambre. Cette personne a été prise en charge par les marins-pompiers. Elle est hospitalisée dans un état d'urgence absolue.
Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Bruno Retailleau a porté son soutien aux policiers et aux victimes et il a aussi donné des précisions sur l'identité de l'assaillant.
Cet individu est de nationalité, comme vous le savez, tunisienne. Il est né en Tunisie en 1990, il a donc 35 ans. Il est depuis plusieurs années en France, il avait une carte de séjour. Il est en situation régulière puisque sa carte de séjour devait se terminer en 2032. Mais c'est un individu qui est défavorablement connu de nos services. Il a eu fait affaire à la justice et le préfet de l'Hérault avait saisi l'autorité judiciaire à la fin du mois d'août pour signaler un certain nombre d'agissements. Et notamment, l'individu avait proféré des paroles antisémites devant la mosquée de Sète.
Une enquête a été ouverte, mais le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Les teufeurs de l'Aude sont partis. Plusieurs milliers de personnes ont participé à une rave party sur un terrain des Corbières ravagé par le gigantesque incendie du début d'été. Manifestation interdite qui avait provoqué l'agacement, c'est le moins qu'on puisse dire, des agriculteurs de la région qui sont soulagés maintenant de voir la fête sauvage terminée. Le reportage de Charles Lullier pour Europe 1.
Ils sont partis, on va pas pleurer.
Comme cet agriculteur, beaucoup ici sont soulagés du départ forcé des teufeurs. Une joie vite remplacée par la montagne de travail qui les attend. Florian, propriétaire du site sur lequel a eu lieu la rave, ne peut que constater.
Tout est piétiné. Pour remettre ça en état, il faut du matos, des tracteurs, décompacter les sols, replanter. Donc il y a certainement du taf derrière, parce que maintenant c'est plus une piste de danse qu'une surface agricole. Non. Mais le problème après, c'est, je pense que ça va rassembler à des chiottes.
Car les teufs ont laissé derrière eux leur déjection, sans compter les déchets. Alex, lui aussi viticulteur, s'attend donc à une note salée.
Il y a des sacs de détritus partout, des bouteilles, des assiettes, un verre, un couteau. Je n'ai aucune idée du temps qu'il y a pour ramasser tout ça. Ça sera long et coûteux. Ça va être une paire de milliers d'euros consacrés à ça.
Pour éviter un second épisode de ce type, les viticulteurs ici ne souhaitent qu'une chose, que la France se calque sur la très répressive législation anti-rave adoptée il y a 3 ans en Italie. Fonjon Couze, Charles Lhuillier, Europe 1.
À midi 2, on va marquer une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve pour la dernière partie, c'est l'actualité sportive. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Depuis 30 ans, le Méridien Nouméa écrit vos plus beaux souvenirs. À l'occasion de cet anniversaire, redécouvrez l'Hippocampe, son restaurant gourmet en version éphémère. Ne manquez pas cette occasion. Chaque vendredi et samedi du mois de septembre, dégustez un menu gastronomique, 5 plats à 9 890 francs par personne, incluant une boisson d'accueil. Réservez vite au 26 50 00.
Caroline de Groisel vous invite à découvrir sa nouvelle collection intitulée « Variations en fantaisie couleur » à la galerie Artebello rue Auguste Brun, expo jusqu'au jeudi 11 septembre, du mardi au samedi de 9h30 à 17h30. Variations en fantaisie couleur de Caroline de Groisel, ne passez pas à côté.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer par le basket avec la suite du championnat d'Europe des Nations Lionel Sabot. L'équipe de France rencontrait ce matin la Pologne pour son avant-dernier match de la phase de poule de cette compétition.
Oui, porté par un grand Gershon Yabusele, les Bleus ont effacé la déception d'une défaite contre Israël en faisant tomber le pays hôte 83-76 ce matin à Katowice. Qualifié quelques heures plus tôt grâce aux victoires des Israéliens et de la Slovénie, les vice-champions du monde restent désormais dans la course à la première place du groupe D avant de disputer un ultime match, ce sera face à l'Islande. Avec 36 points, c'est son record en bleu. Yabusele, que l'on surnomme l'ours dansant, c'est mignon comme tout, a montré la voie à ses coéquipiers tout au long de la rencontre. En pleine confiance, il a signé un très bon 6/12 à 3 points. Reste que les hommes de Fred Fotoux vont devoir rester sérieux lors des prochaines rencontres, car ce matin, tout n'a pas été parfait, loin de là, notamment en première période. À de très bonnes phases sont venus se greffer des passages à vide et des erreurs défensives. Les Polonais en ont profité pour infliger aux Bleus un 6-0 dans les toutes dernières minutes précédant la mi-temps pour virer en tête 44-41. L'équipe de France retrouvera les parquets. Demain soir, ce sera face à l'Islande, un dernier match de poule à suivre à partir de 23h, heure de Nouméa.
Allez, on va parler football. Quelques jours après le tirage au sort de la première phase de Ligue des Champions, la plateforme Football Meets Data, spécialisée dans les statistiques liées au football, a établi les chances de qualification des 36 clubs engagés dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe.
Oui, un classement de la phase de ligue qui a été effectuée en prenant en compte le tirage au sort, le passé récent ou encore les qualités des effectifs de chacune de ces équipes. Et d'après les calculs de Football Meets Data, Arsenal est le club qui aurait le plus de chances de terminer dans le top 8 directement qualifié pour les 8e de finale. Arsenal qui devancerait Liverpool, le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Inter de Milan, Manchester City, Chelsea Et le tenant du titre, le Paris Saint-Germain. Concernant les deux autres clubs français, Monaco pointe au 21e rang avec seulement 13% de chances de figurer dans le top 8 et 68% de chances de terminer dans le top 24 et donc de jouer les barrages de cette première phase de la Ligue des Champions. Pour l'OM, la mission s'annonce encore plus compliquée. Pour son retour en Ligue des Champions, le club phocéen n'aurait que 6% de chances de finir parmi les 8 premiers, 49% de chances de décrocher une place dans le top 24, qualificatif pour les barrages qui seront à jouer par les équipes classées de la 9e à la 24e place.
Mais ce ne sont que des statistiques. Oui. On passe au cyclisme maintenant avec le Tour d'Espagne qui a repris après une journée de repos. Les coureurs du peloton ont disputé cette nuit la 10e étape de cette Vuelta 2025.
Et Jay Vine, l'Australien de la formation Emirates, a remporté sa 2e étape lors de ce Tour d'Espagne, la 4e de sa carrière. Jonas Vingegaard a repris la tête du classement général. Le Danois, 11e de l'étape, grand favori de l'épreuve, a terminé à une minute du vainqueur dans un groupe de poursuivants comptant ses principaux rivaux, notamment le Portugais João Almeida. Le leader de l'équipe Visma Lisebike a ainsi dépossédé du maillot rouge de leader le Norvégien Tanstein Traen qui a craqué à 6 km de la ligne d'arrivée et a lâché sa position de tête pour 26 secondes. Il recule donc en deuxième position du général, tandis qu'Almeida, troisième pointe à 38 secondes du leader. Demain, 11e étape avec un départ et une arrivée du côté de Bilbao. Une course qui serait plutôt favorable aux spécialistes des classiques avec 7 difficultés répertoriées sur les 160 km de cette 11e étape.
Et puis on termine avec du tennis. Oui. On vient de parler cyclisme. Et la suite de l'US Open.
Oui, avec Carlos Alcaraz, l'Espagnol qui s'est qualifié pour les demi-finales de cette US Open. Il s'est imposé en 3-7 assez facilement face au Tchèque Jiří Leška. Score final 6-4, 6-2 et 6-4. En ce moment, Novak Djokovic affronte l'Américain Taylor Fritz. On est dans le premier set et Djokovic menait 5 jeux à 3. Et puis chez les dames, qualification de Jessica Peluga qui s'est imposée sur la Tchèque Kershikova. Score final 6-3, 6-3. Qualification également pour les demi-finales d'Ariana Sabalenka. La Bélarusse qui, elle, a profité du forfait de la Tchèque Vondroušová pour accéder au quart de finale.
Merci Lionel.
Au demi-finale.